I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Salut tout le monde. On est enfin en automne, puis vous savez ce que ça veut dire. On est officiellement dans la Gilmore Girls season, le moment de l'année là, où est-ce qu'on a juste envie de réécouter Gilmore Girls en pyjama, dans une grosse couverture avec des petites chandelles, là, puis un petit thé chaud. Et là, aujourd'hui, je bonifie votre expérience parce que je vous ai préparé un épisode spécial Gilmore Girls et j'ai fait ça avec mon personnage préféré de la série. J'ai fait ça avec Yannick Truesdale, qui incarnait le personnage de Michelle. Je suis très chanceuse de l'avoir eu ici parce qu'il m'a dit qu'il dit pas souvent oui, même qu'il a jamais fait de podcast en français ici au Québec. Fait que vraiment, très chanceuse de l'avoir avec moi pour revenir sur cette série-là qui a fêté le 5 octobre ses 25 ans. Ça a été le fun de revenir avec lui sur justement ses débuts à LA, son audition pour la série, l'ambiance sur le plateau, ses souvenirs. Si vous êtes fan de Gilmore Girls, je pense que l'épisode d'aujourd'hui, ça va vraiment vous satisfaire. Et là, juste avant d'aller dans l'épisode, qui dit Gilmore Girls Season dit plat réconfortant. Moi, il n'y a rien que j'aime plus là, que de binge-watcher une série quand il commence à faire froid dehors, en sachant que j'ai un take-out tout chaud qui s'en vient à la maison. Et là, je vous ai trouvé le plat réconfortant par excellence. Devinez, il vient d'où? Il vient de chez Toujours Max, mon présentateur officiel. C'est leur mac and cheese. Attendez de savoir la description, là. C'est des cavatappis. Donc, des cavatappis, là, c'est des petites pâtes torsadées qui retiennent bien la sauce. Dans une sauce crémeuse aux trois fromages et au fromage cantonier. Il n'y a jamais trop de fromage dans un mac and cheese. Il y a aussi des oignons verts. Et là, la touche finale pour un maximum de texture. Ils ont mis des oignons croustillants. C'est tellement bon, c'est exactement le genre de plat que Rory et Lorelai se seraient commandés pour une soirée télé. Si jamais ça vous donne faim, j'ai un code promo, c'est Québec Nostalgie 15. Ça vous donne 15% de rabais sur toutes vos commandes là, pour emporter, livraison, dès que vous commandez pour 25$ et plus. D'ailleurs, si vous le commandez là, vous allez sûrement le recevoir avant la fin de l'épisode. Ça va être un match parfait, là. Gilmore Girls Mac and Cheese. Essayez ça. Aussi, ben le podcast est présenté par TVA+. Puis là, aujourd'hui, j'ai une série à vous recommander puis c'est sorti vraiment dans les mêmes années que Gilmore Girls. C'est sorti en 2006 puis c'est la série Weeds. C'est vraiment le fun parce que TVA, ils nous ont donné les deux premières saisons. Ils nous ont mis en ligne en fait, les deux premières saisons, gratuitement. Dans la série, on se retrouve dans une banlieue super respectable de Los Angeles où, attention, classique, les apparences sont parfois trompeuses. L'histoire, elle se concentre vraiment sur le personnage principal qui est Nancy Botwin, qui est une mère de famille qui vend de la marijuana depuis la mort subite de son mari. Ça, ça va être sa façon à elle de subvenir aux besoins de sa famille. C'est vraiment une super bonne série, mais ça, c'est pas juste moi qui le dis, là, c'est juste les critiques en général à l'époque étaient super élogieuses. Ils ont même eu, ils ont gagné un prix aux Golden Globes pour la meilleure actrice dans une série comique à cause de la performance de Mary Louise Parker. Puis sinon, ils ont eu plein d'autres nominations aux Golden Globes, aux Emmys. Fait que vraiment, c'était une série de super bonne qualité. Moi, ce qui m'a marqué dans la série, c'est le casting. Si vous avez écouté le film 17 Again ou It's Complicated, il y avait un comédien qui s'appelait Hunter Parrish. Moi, je le trouvais bien beau quand j'étais jeune. Fait que quand j'avais vu qu'il jouait dans Weeds, j'étais comme, OK, je vais peut-être écouter cette série-là. Puis surtout, moi, ce qui m'a convaincue, c'est que j'ai vu qu'il y avait un caméo de Mary-Kate Olsen. Moi qui adore les jumelles Olsen, j'étais comme, c'est juste ça que ça me prenait pour me convaincre d'écouter la série. Si jamais ça pique votre curiosité, vous avez le goût de l'écouter, c'est sur TVA+, les deux premières saisons. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que la première saison est là seulement jusqu'au 31 décembre. Donc là, d'ici Noël, écoutez la première saison, puis après ça, pour la deuxième, vous avez du temps. La deuxième est là jusqu'en juillet 2026. Fait que vous avez quand même pas mal de temps. Allez voir ça, c'est sur TVA+. Je vous mets le lien en description. Si vous cherchez ma fameuse section, là, les classiques intemporels présentés par Québec Nostalgie, en description, vous avez le lien direct puis vous allez retrouver cette série-là, mais aussi tous les titres que je vous recommande à chaque semaine. Et là, sans plus attendre, on s'en va rejoindre Yannick Truesdale pour un épisode 100% Gilmore Girls. Bonjour Yannick!
Salut!
Merci tellement d'être là. Surtout que tu m'as dit que t'en fais pas souvent. Les podcasts.
En fait, en français, je pense que c'est la première fois.
Ben, Colin, ouais. La gang, on est gâtés.
T'es choyé. T'es choyé.
Je suis choyé. Je suis vraiment contente de t'avoir, toi, spécifiquement, parce que, puis je dis pas ça pour être fine, mais t'étais mon personnage préféré dans la série. Moi, j'ai grandi en écoutant Gilmore Girls avec ma grande sœur, avec ma mère. C'était notre émission. Puis dans la série, c'était toujours tes liners à toi qui nous faisaient rire. T'étais notre personnage chouchou, là, qu'on aimait beaucoup. Fait que c'est vraiment un honneur de t'avoir avec moi au podcast aujourd'hui pour célébrer la Gilmore Girls season.
Ouais. Ouais, puis nos 25 ans, en fait.
Le 25
ans. Ouais, le 5 octobre, ça fait 25 ans. C'est fou, hein?
C'est fou.
Ouais.
Puis on a pas mal de recul. Ça va être le fun de
On
revenir.
A beaucoup de recul. Moi, même des fois, trop, je me fais poser des questions, puis ma mémoire commence à me lâcher un peu. Mais oui. Puis je suis pas celui qui a la meilleure mémoire non plus.
Ah, ben on va voir
ouais,
ça.
Ouais, tu verras. Tu verras.
On va travailler là-dessus aujourd'hui. Ouais. Vraiment, je me demande, est-ce que tu réalises l'ampleur que Gilmore Girls a encore aujourd'hui, parce que sur les réseaux sociaux, à ce temps-ci de l'année, quand on est en septembre, octobre, il y a justement ce qu'on appelle la Gilmore Girls season, le moment où est-ce que tout le monde a comme envie de réécouter Gilmore Girls. Et en ce moment, moi déjà, je vois plein de vidéos qui s'appellent comme Autumn Vibes ou
mais
Gilmore
sur où,
Girls
genre
season.
TikTok,
sur TikTok,
quoi? Okay.
Sur Instagram, les gens font des vidéos de eux qui boivent du thé, qui réécoutent Gilmore Girls, qui se font venir du take-out.
Je
y a
vois
comme...
pas.
Non?
Non, je vois pas ça. Je suis pas très médias sociaux, de un. En fait, c'est surtout ça. Je suis pas très médias sociaux, donc je suis pas. Mais pour répondre à ta question, oui, je suis au fait de la popularité du show même 25 ans plus tard parce que je vis avec au quotidien.
C'est ça.
Fax. Puis je le vois de par les jeunes filles qui m'approchent de 13 ans, 14 ans, que forcément, ils l'ont pas écouté quand c'est sorti il y a 25 ans. Donc, ça, j'en suis très conscient, mais c'est toujours un peu difficile de comprendre comment ça se fait que 25 ans plus tard, le show est encore aussi populaire? Ça, j'avoue que ça m'échappe un
peu. Pourquoi les gens le réécoutent? T'sais, j'ai des amis qui sont quasiment à leur 10e écoute.
Ah, il y a des gens qui l'ont écouté depuis 30 fois. J'ai plein de... Oui, c'est fou.
C'est malade.
Je sais pas quoi dire par rapport à ça,
Pourquoi tu penses que ça perdure autant? C'est à cause des thèmes qui sont exploités?
Tu serais sûrement mieux placé que moi pour répondre à la question parce que toi, tu le réécoutes. Ouais. Ça fait vraiment... C'est quoi, en fait? Pourquoi tu réécoutes chaque automne? C'est quoi qui fait que tu...
Ben moi, je pense... pourquoi à chaque automne? Je pense que c'est vraiment... C'est une série qui est une vibe, on va dire ça comme ça, à cause que c'est souvent... On est souvent à l'automne. Il y a souvent le thème de la rentrée. Rory qui rentre à l'école, on l'a su à l'école. Fait qu'il y a quelque chose d'associé un peu à la rentrée scolaire, le mois de septembre, le mois d'octobre.
Ouais.
Puis après ça, je pense que c'est les thématiques aussi. Là. C'est des choses qu'on a tous un peu vécues, qu'on a tous...
Mais pourquoi re-regarder? C'est ça mon...
Parce que c'est bon.
Parce que c'est bon. OK. C'est-tu parce que c'est aussi ça. Un feel-good?
C'est tellement feel-good.
C'est ça.
Ouais.
OK.
Je trouve ça drôle de t'expliquer ça. Tu sais, vu que toi, tu l'as vécu.
Ben oui, mais c'est parce que moi, je le regarde pas, c'est ça. Fait que j'ai pas cette connexion
mais
avec de la même façon.
Ouais. Tu les as-tu déjà réécoutés?
Non. Non, je les ai jamais vus. J'ai juste vu la première saison presque au complet, mais les autres saisons, j'aime pas me regarder. Fait que la première saison d'un show, je regarde parce que je veux voir le travail des autres, parce que je veux voir le show, je veux voir c'est ça, je veux comprendre le show.
Ouais.
Mais une fois que j'ai compris ça, comme on avait toujours des lectures des épisodes, avec tous les autres acteurs, ben, j'entendais c'était quoi l'histoire, je voyais un peu ce que le monde allait faire. Fait que ça me suffisait, là. J'ai pas vu la série.
Ah, ouais. Mais c'est ça, mais t'étais au courant quand même de toutes les storylines.
De tous les storylines.
T'as tes textes, t'as toutes tes scènes
c'est
à toi.
Ça.
Mais t'étais quand même au courant de ce qui se passait, où est-ce que ça s'en allait.
Si j'étais pas dans l'épisode, ben j'étais pas à la lecture. Donc cet épisode-là, je sais pas ce qui s'est passé.
Fait que des épisodes que t'as aucune idée qui existent.
Exact.
C'est bien bon.
Oui, exact.
J'adore.
Ouais.
Wow.
Ouais.
Puis tu disais qu'il y a des gens qui t'arrêtent sur la rue. Fait encore 25 ans plus tard, ça t'arrive constamment de te faire arrêter.
Constamment, quotidiennement, tout le temps. Partout dans le monde, tout le temps.
Puis toi, bon, t'es Montréalais. Ouais. T'as grandi ici. T'habites encore ici, mais je pense que tu partages quand même ta vie avec LA.
J'habite pas ici, j'habite à LA.
T'habites à LA.
Ouais. J'ai une maison ici que je viens l'été quand je tourne pas. Pour voir ma famille, oui, c'est ça. Là, je m'en vais mercredi.
De t'avoir.
Non, mais ça, c'est normal. Là, je traîne un peu, mais je m'en vais mercredi. Donc, c'est ça. Ouais.
OK. Puis, je suis curieuse. Quand t'es à Montréal versus LA, où est-ce que tu te fais le plus arrêter? À LA ou à Montréal? Qui t'a...
Je te dirais que ça s'équivaut. Je pourrais pas dire qu'il y a une ville que je me fais plus reconnaître que d'autres.
Non. C'est vraiment pareil partout.
Ouais. Je dirais. Il y a eu certains endroits sur la Terre où j'ai pas compris ce qui se passait, entre autres, en Israël. Je suis allé en Israël il y a 20 ans.
OK.
Et j'étais comme Madonna. J'ai pas compris ce qui se passait, mais c'était vraiment trop, en fait, parce que je pouvais pas sortir. Si j'allais dans un restaurant, le restaurant complet se levait pour venir à ma table. Fait que là, au début, je me disais, voyons, qu'est-ce que... J'étais avec des amis, toute personne comprenait ce qui se passait. Je pense que c'est juste très, très, très populaire là-bas. Oh, j'ai pas... Ouais, j'étais allé dans un hôtel à Jérusalem, un hôtel 5 étoiles pour prendre un verre de champagne, c'était la fête de mon ami.
Okay.
Et on n'avait pas réservé, c'est juste pour te donner une idée là. Et j'arrive dans le lobby de l'hôtel et la terrasse c'était sur le toit, on voulait aller prendre un verre de champagne sur le toit. Par le temps que je monte sur le toit, le manager de l'hôtel avait été averti que je m'en venais sur la terrasse, il m'attendait. Ils nous ont offert une bouteille de champagne. Donc, on n'a pas juste bu un verre de champagne, mais la bouteille au complet. Et une fois qu'on avait terminé, ils nous ont emmené un lit. Puis, on dit, on a un livre quand il y a des gens connus qui viennent à l'hôtel. Si jamais vous voulez écrire un petit mot. Alors, je dis, ben oui, bien sûr, ils m'offrent une bouteille de champagne. Et j'ouvre le livre et il y avait Obama, il y avait Madonna. Il y avait... Puis là, j'étais comme, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est très, très étrange.
Wow!
Ouais. Fait que ça, je peux te dire que là-bas, très, 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 très populaire.
Il nous
clenche. Oui, quand je n'importe qui, j'avais jamais vécu
prenez
ça.
Prenez des notes.
Oui, j'avais jamais vécu ça. C'était quelque chose.
Wow!
Ouais.
Aïe, aïe.
Ouais.
Mais j'ai goût qu'on revienne au début de ta carrière, justement.
Ouais.
Juste avant que tu obtiennes ton rôle dans Gilmore Girls, qui a été, en fait, ton premier rôle à Hollywood.
Bien sûr.
Avant ça, toi, tu travaillais déjà au Québec. Tu avais fait une couple de projets, comme il y avait eu Lancé Compte, entre autres.
Majeur et vacciné, surtout.
Exact.
Ouais.
Puis t'en étais où, juste avant? Tu sais, est-ce que...
Bien, majeur et vacciné, ça avait été un gros succès. Je m'en fais d'ailleurs des fois
t'as
encore parler.
T'avais eu une nomination au Gémeaux.
Ouais, au Gémeaux, ouais. Et j'étais très heureux du show, j'étais très heureux du personnage.
¿Quieres mejor internet? Cox Internet de 300 megas tiene las velocidades rápidas y confiables que buscas. Perfecto para streaming y gaming y trabajar desde casa. Todo por solo $45 al mes cuando agregas Cox Mobile. Incluye equipo de Wi-Fi y garantía de precio de 2 años en tu plan. No esperes. Cámbiate hoy a Cox. Requiere Cox Mobile Gig Unlimited. Garantía de precio no incluye impuestos y cargos. Velocidad de datos móviles se reduce después de 20 gigas al mes.
L'écriture, le show avait été nominé aussi pour un Gémeaux, l'écriture, et c'est pas revenu pour une raison nébuleuse, pour une deuxième saison, et j'avais trouvé ça tellement absurde, parce que ça faisait comme 10 ans que je faisais le métier, ça faisait comme 10 ans que j'attendais un moment comme celui-là, de me retrouver dans quelque chose que je suis vraiment fier, avec un personnage avec plusieurs couches et tout et tout. Ah, ça m'a fait, je vais utiliser un mot québécois, débosser du milieu ici. Et j'ai pris une année sabbatique du milieu ici, puis je suis allé étudier à New York, au Lee Strasberg, de method acting.
Ouais.
Et ça m'a donné assez de confiance en moi pour essayer d'aller travailler à Los Angeles et ne pas revenir ici. Parce qu'il faut se souvenir que quand j'ai commencé à faire le métier, moi, c'était dans les fins des années 80, il y avait pratiquement aucun noir à la télé à part Norman Brathwaite et... Après ça, il y a eu Grégory Charles qui faisait Chambre en ville. Donc, on était comme trois. Il y avait dans les breakdowns, quand on passait des auditions, ils demandaient, il n'y avait jamais, jamais, jamais de personnage noir. Fait qu'il fallait toujours que je me batte pour dire, ben ce gars-là, dans le fond, ça fait rien s'il est noir. Il n'y a pas de frère, il n'y a pas de soeur, il n'y a pas de famille. Bref, c'était hyper ardu comme début de carrière et reality shock pour moi. Donc, quand j'ai vu un peu la nature de la réalité du métier, qui est un métier ici financier, par le gouvernement, donc ça importe un peu qui est à la télévision, si c'est pas ce show-là, ça va être un autre, on a notre budget quand même, on a notre argent quand même. Et ça m'a enlevé le goût de me battre pour faire ma place, en fait. C'est ce qui est arrivé.
Puis tu disais qu'à Hollywood, ça allait peut-être être plus facile.
Bien, c'est que quand je regardais la télé américaine, il y avait plein de noirs dans plein d'émissions.
OK, je comprends.
Et je me voyais.
Ouais.
Je faisais, OK, ça se peut là-bas. Tu sais, en fait, c'était un peu naïf parce que quand je suis déménagé, je parlais encore anglais avec un accent français. Bon, j'ai travaillé là-dessus, je l'ai perdu au fil des années, mais... C'est sûr que ce que je voyais à la télé, c'était des Noirs américains qui jouaient des personnages américains. Donc, Donc, encore fallait-il que je sois capable de faire l'accent américain. Ça, j'avais comme pas réfléchi à ça.
Mais tu dis naïf, mais en même temps, Gilmore Girls, c'était la première audition que tu passais. Je me trompe-tu? Oui. Parce que j'ai lu ça.
Oui, oui, oui. Gilmore Girls, c'était la première audition, mais c'était naïf dans la réalité dans laquelle je voulais participer.
Ouais.
Tu vois, je voulais faire partie du milieu artistique à Hollywood. Mais forcément, les personnages qu'on écrit dans les scénarios américains, c'est des personnages américains. C'est de là où je veux dire que j'étais naïf. De toute façon, j'étais naïf, je peux te le dire, parce que je croyais qu'en arrivant à LA, vu que j'étais un acteur professionnel au Canada, que j'avais... pas facile. J'étais pas naïf à ce point-là, mais je pensais qu'avoir un agent, à tout le moins, ça allait pas être un problème. Et ça l'a été. J'ai pas été capable d'avoir un agent, en fait.
Puis comment t'as obtenu l'audition pour Gilmore Girls?
Ouais, j'ai l'impression de l'avoir raconté mille fois cette anecdote-là, mais je vais la raconter encore. C'est qu'une amie m'avait amené dans un lunch à Beverly Hills avec un gars qui était un assistant à CAA. CAA, c'est la plus grosse agence d'acteurs à Los Angeles. Puis elle voulait pas y aller tout seul parce qu'elle avait l'impression qu'il y avait un petit peu un flirt puis ça l'intéressait pas. Et même si je voulais pas y aller, j'ai finalement, en tant que bon ami, je suis allé. Et ce gars-là est devenu un agent comme 6 mois plus tard. Ouais. Et c'est ce gars-là qui s'est souvenu de moi, qui avait lu le breakdown de Gilmore et qui m'a appelé et qui a dit « Écoute, j'ai vu un rôle. Il me semble que tu fites dans le rôle. Est-ce que tu aimerais ça y aller? » Ouais, fait que c'est comme ça que j'avais obtenu le rôle. Ouais.
Y a-tu beaucoup de monde qui ont auditionné pour Michel?
J'ai aucune idée. De par la nature du métier à Los Angeles, quand il y a un rôle important, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui auditionnent. Moi, je sais que Michel était supposé d'être quelqu'un de beaucoup plus vieux, comme quelqu'un dans la soixantaine, et qui n'ont pas trouvé. Donc ça te donne une idée qu'ils ont dû faire beaucoup, beaucoup d'auditions pour pas trouver ce qu'il y avait en tête. Ouais. Fait que là, ils ont décidé de rajeunir le personnage. Et c'est là que j'ai pu auditionner.
Puis toi, quand t'as auditionné, quand t'as fait ton audition, t'avais-tu déjà un bon feeling que t'allais l'avoir?
Il y a des fois des personnages que tu lis, puis qu'automatiquement, à la lecture, tu fais... Ah, OK, je comprends. Je comprends c'est qui ce gars-là. Ouais. Tu te poses pas de questions et tu fais des choix un peu comme par instinct parce que tu reconnais la psychologie de ce gars-là. Ça a été le cas pour Michel. Mais après avoir fait ma première audition, j'avais pas de nouvelles. Donc, après 2 semaines, j'ai rappelé Michael. Puis j'ai dit, écoute, je suis surpris de pas au moins avoir un callback. T'sais, il me semble que... Fait qu'ils ont appelé puis ils ont dit, non, il va avoir un callback. C'est juste que là, expression, je me souviens plus. Ouais, c'était long. Fait que j'avais un feeling que je comprenais bien ce gars-là, mais c'était ma première audition, fait que j'avais pas de référence avec comment est-ce que ça se passe habituellement là-bas. Fait que c'est ça.
Donc là, c'est ça. T'as obtenu le rôle. Michel, c'est un Français dans la série.
Ouais.
Puis je pense qu'il y a des gens que ça a peut-être été long, peut-être pour ma génération, en tout cas, quand on écoutait la série. Moi, sur le coup, je savais pas du tout que t'étais Québécois.
Ah oui, je sais.
Trouves-tu que ça a été long avant que les gens réalisent que t'es un gars d'ici?
En fait, j'ai pas trop compris parce que quand j'ai fait Gilmore dans les premières années, il me semble que j'ai fait à peu près tous les talk shows inimaginables qu'il y avait à l'époque à Montréal, les émissions de radio.
Pour parler justement pour parler du fait de... qu'il avait obtenu
voilà,
ce rôle-là.
Oui. Puis 10 ans plus tard, il y avait encore du monde qui me disait « Ah, mon Dieu, on vient de découvrir. » Puis je fais « OK, mon Dieu, je comprenais pas trop que... » Toutes les entrevues que j'avais faites, le message s'était pas passé que, ben oui, le gars, il est Québécois. T'sais. Il a fallu que je le répète comme 500 fois avant que le monde fasse. Ah oui, il est Québécois. Oui, ça fait 500 fois.
Mais c'est ça que je me demandais parce que même moi, à l'époque, je me souviens pas. Peut-être parce que j'étais vraiment jeune.
T'étais jeune, ça, c'est sûr.
Mais même dans les émissions jeunesse où est-ce qu'elle allait rencontrer justement nos vedettes et tout, et tout, une réalité ou quoi que ce soit au Québec, je me souvenais pas t'avoir vu. Fait que moi, je me demandais si justement tu trouvais qu'on avait assez célébré ça parce que c'est quand même gros, tu sais.
Ouais, c'est bien. La réponse, elle est complexe. Je trouve que pour faire le métier maintenant à Los Angeles depuis 26 ans, je trouve que les succès qu'un Québécois a à l'étranger sont souvent peu célébrés ici. Il y a comme une espèce de... Je sais pas si c'est un malaise, je sais pas si c'est une jalousie, je sais pas c'est quoi.
Il est parti.
Je sais pas c'est quoi le truc, mais je pense que quand le succès est immense, là, les gens se rallient, comme Céline, tu vois. Denis Villeneuve, le Cirque du Soleil. Là, les gens vont, oh mon Dieu, on est tellement fiers, on est tellement fiers. Mais le in-between,
On n'en parle pas.
Ben, c'est moins célébré.
Oui.
C'est moins célébré. Tu vois, là, je viens de faire une nouvelle série, Étoile, qui est une des séries les plus chères, de, en tout cas cette année, dans l'année dernière, le plus gros budget de Hollywood et tout ça. J'ai fait quelques entrevues, mais presque pas. Ben, il y a pratiquement personne qui m'a invité pour parler de ça. C'est correct, ça, j'ai pas besoin d'en... Mais c'est sûr que moi, ici, c'est la maison.
Mais
donc,
oui,
j'aime ça, parler de mes trucs d'ailleurs, ici, au monde qui sont de ma culture, puis tout ça, tu sais.
C'est clair.
Mais les gens n'ont pas un grand intérêt, je te dirais, pour une raison que je suis pas trop certain.
C'est bizarre.
Ouais.
C'est bizarre.
Je sais pas.
Il y a pas grande explication, mais non, c'est bizarre.
Non, c'est ça. Je saurais pas quoi dire, ouais.
Puis dans la série, bon, tu jouais Michel, qui est un Français.
Ouais.
Je suis curieuse, est-ce qu'il y a des Français qui t'ont écrit par rapport... Oui?
Oui, les Français adorent Michel. Surtout que là, j'ai tourné, Étoile, j'ai tourné à Paris pendant 8 mois. Donc, je me faisais beaucoup parler de Gilmore par les Français, par les Parisiens. Puis les Parisiens ont adoré ce personnage-là.
Ah, oh, c'est ça, je me demandais.
Ouais, ouais, eux,
ça avait été bien reçu.
Oui. Eux, ils étaient contents de la représentation, oh, je sais pas quoi, là. Ouais.
C'est tellement bon.
Ouais.
Puis on s'en est parlé brièvement hors des caméras, mais... Ouais. Michel, évidemment, il y a eu une version québécoise de la série. Parce que Michel, dans la série américaine, Michel, on entend son accent français, mais il parle anglais.
Voilà.
Dans la série québécoise, il parlait français.
Mais avec un accent espagnol, je crois qu'on m'a dit qu'ils lui ont mis au italien. C'est ça, j'ai des amis. Moi, j'ai vu un extrait à un moment donné, je fais, voyons, ça se peut pas. Parce que la voix est vraiment très, très différente de la mienne. Et aussi, ben...
C'est pas toi qui as fait ton propre doublage.
Non, ça, c'est très compliqué. Toutes les fois, à l'époque, je sais pas à quel point j'avais essayé, mais depuis, dans mes autres séries, que ce soit Étoile, que ce soit God's Favorite Idiot, que ce soit... J'ai toujours essayé de faire la version française. J'ai toujours voulu le mettre dans le contrat. Et c'est comme si je demandais 1 milliard de salaire. Je sais pas, c'est très compliqué. Fait que ça a jamais marché, je sais pas.
Mais c'est vraiment bizarre parce que s'il y a bien une personne qui est placée pour te jouer, c'est
ben,
que c'est toi.
C'est, hein? Il me semble. Il me semble.
Ça
c'est
serait,
comme un
ça
non-sens.
Serait logique.
Ouais. C'est logique. Je ne sais pas trop. Peut-être que pour eux, c'est plus... En fait, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Ouais.
Ça coûterait trop cher. Je ne sais pas.
C'est une affaire d'argent.
Ah,
ou de...
Je pense pas.
Ou parce que je sais comme là, le doublage de Étoile était fait à Paris. Est-ce que là, donc, ils doivent me payer un billet d'avion, m'amener? Est-ce que c'est tous les frais de ça?
Ça se peut, ça.
Ça se peut que ce soit un truc financier.
Mais en même temps, quand tu as l'occasion d'avoir le même comédien, parce que ça ne doit pas arriver si souvent que ça.
Je pense pas.
Quand même, moi, je suis très sur l'occasion.
Moi aussi, j'ai toujours trouvé que c'était un non-sens. Mais...
Vraiment.
Ouais.
J'ai envie qu'on parle des textes de la série qui ont été écrits par Amy Sherman Palladino et Daniel Palladino. Ces textes-là, qui sont des textes très étoffés, beaucoup de mots, très rapidement.
Oui.
Comme comédien, est-ce que, veux pas, tu sais faire ton métier, là.
Ouais.
Mais est-ce que quand même, ça reste un challenge d'apprendre ces textes-là comme ils sont super rapides?
Au début. En fait, il faut, toi qui l'as vu plus qu'une fois, je sais pas si tu as remarqué, au début de Gilmore, la première saison, les premiers épisodes, je pourrais pas te dire à quel moment que c'est arrivé, on parlait pas vite.
C'est vrai qu'il y a une évolution.
Oui, c'était un rythme normal. Puis à un moment donné, je sais pas d'où c'est venu, on nous a demandé d'accélérer.
Et on vous l'a demandé.
Oui, on nous l'a demandé. Alors, c'est une demande. Bien sûr, c'est une demande. C'est une demande de Amy et de Dan. Et depuis, c'est devenu leur signature. Toutes leurs shows, Maisel, Étoile, tout ça, tout le monde parle toujours. Il y a toujours ce rythme-là. C'est un rythme qu'eux aiment.
On le reconnaît tout de suite.
C'est ça. Donc, au début, c'était très compliqué parce que c'est très compliqué de faire passer des nuances et des intentions quand tu dois parler si vite. Mais tu développes une aptitude à le faire. Fait que je te dirais que ça passe par la première année, en tout cas, des frustrations. Tu fais, voyons, je n'ai pas le temps de respirer, je n'ai pas le temps de rien faire passer. Puis à un moment donné, tu y habitues au point où ça devient normal, en fait. Quand j'ai refait Étoile, tous les acteurs, Charlotte, tout ça, Gainsbourg, me disaient, mon Dieu, c'est tellement rapide. Je le sens plus.
Ouais,
je suis tellement... Quand même, 7 années de Gilmore, 4 films de reprise en 2016... C'est beaucoup d'épisodes là où j'ai parlé rapidement. Donc, à un moment donné, ton cerveau s'habitue à ce rythme-là.
Y a-tu fallu que tu réapprennes à parler?
Oui, c'est ça. J'avais déjà raconté cette histoire-là. C'est que je me souviens plus quelle émission que j'avais fait après. Puis, je m'étais fait dire par le réalisateur, relax, ralentis, c'est trop rapide.
Ouais. Puis, à travers ces textes-là, justement, est-ce que tu avais la liberté d'improviser des fois? ou c'était important
zéro.
Pour les autres? Non, hein?
Zéro. Mais quand je te dis zéro, c'est pas un mot.
Est-ce que c'est parce que les auteurs tiennent à ce que ça, les textes oui. restent tels quels? OK, je comprends.
Mais ils sont pas du tout ouverts à l'impropriage des trucs. C'est pas leur.
Ben c'est bien correct parce qu'en même temps, eux autres qui ont tout calculé qu'est-ce qu'ils voulaient précisément.
Oui, exact. Ouais.
Puis est-ce que ça vous arrivait, étant donné que justement il y avait beaucoup de textes, est-ce que ça vous arrivait de devoir reprendre parce qu'à un moment donné, hey, je respire plus ou...
Ben c'est-à-dire que tu sais, aux États-Unis, on travaille pas comme ici, à savoir qu'on a beaucoup plus d'argent, donc on a beaucoup plus de temps. Donc, c'est pas rare aux États-Unis de faire 15 prises, 20 prises. Donc, t'as le temps de tu comprends, à Montréal, après après trois prises, on vient de voir, ça va-tu? Tu dis que on n'a pas le budget ici, là, on n'a pas le temps, faut que tu travailles rapidement. Donc, pour répondre à ta question, ben, on avait du temps.
T'avais le luxe de pouvoir reprendre.
Quand même.
Si ça fonctionne.
Oui. Et pas, on te regardait pas avec des gros yeux, là, si tu reprenais ton truc pendant 15 fois. Au contraire, on essayait des trucs, là, tu sais.
Puis j'aimerais savoir comment tu te sentais par rapport à ton personnage. Est-ce que c'était un personnage avec qui tu avais l'impression de partager certaines facettes puis c'était facile pour toi de l'interpréter ou au contraire, il pouvait pas être plus loin de ta personne?
Ben, il est très loin de ma personne parce que je suis pas du tout bougon, je suis pas du tout quelqu'un qui est tout le temps en train de rabrouer ou de critiquer ou tout ça. C'est pas ma personne. En fait, je suis le contraire de ça. Mais son sarcasme, son côté dry pen, là, qu'on dit en anglais, ça, c'est moi. T'sais, j'ai un côté très sarcastique. Mais j'ai toujours aimé ce personnage-là justement parce que c'est un personnage qui disait tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas.
Ouais.
Donc c'était une espèce de
très franc.
Ouais. Et ça c'est très jouissif comme acteur. Ouais. Ma frustration avec le personnage c'était plus qu'il n'a jamais vraiment été développé. Et ça pour moi c'était comme un immense opportunité manquée.
Oui.
Parce que c'était tellement un personnage qui était aimé, c'était tellement un personnage que ça aurait été intéressant de découvrir plus sur qui il était et sa vie personnelle et tout
oui,
ça.
Oui, puis même ses relations. Tu sais, la série, c'est beaucoup basé sur justement les relations, les couples. Puis Michel, ils n'ont jamais vraiment développé.
Rien.
Tu sais, au début de la série, ils ont hinté que Michel est intéressé par les femmes dans les premiers épisodes.
Oui.
Puis là, après ça, c'est juste dans A Year in a Life, les 4 épisodes bonus. C'est là qu'on apprend qu'il est marié à un homme.
Oui.
Ça a été long, me semble.
Oui. Je suis bien d'accord. Oui.
Puis est-ce que c'est parce que, là, finalement, c'est ça, on apprend qu'il est marié à un homme.
Oui.
On se doutait peut-être qu'il était intéressé par les hommes. Est-ce que c'est parce que la série a tenu à rester plus conservatrice dans le temps? Ça a quand même fini en 2006-2007, la série.
2007, oui. Je sais que Amy voulait que le personnage de Suki soit lesbienne. Et elle s'est fait dire non par le network. Donc, c'est une autre époque.
Dans ces années-là,
ça. C'est une autre époque. Donc, je pense que c'était juste pas une option. Puis quand on a fait la reprise en 2016, mais là, c'était plus un enjeu pour les Netflix ou qui que ce soit.
Non,
donc, je pense que dans l'imaginaire collectif, dans leur imaginaire, ils ont fait « Ah, ben finalement, ça serait bien qu'il y ait une relation, puis qu'il y ait une relation avec un gars, tu sais. » De par sa sensibilité qui a été développée au fil des mais c'est ça, il aurait pu être n'importe quoi au début s'il avait fait un choix. On aurait été avec cette sensibilité-là puis on aurait développé ce choix-là. Mais comme il n'a jamais été développé, ben le personnage n'était pas basé là-dessus, en fait. Plus sur son tempérament.
Exact.
Ouais, c'est ça.
Il venait beaucoup puncher, il venait dynamiser.
Ouais.
Puis on aimait sa dynamique avec Lorelai, avec Suki aussi beaucoup.
Ouais. Oui, c'était vraiment mes deux partenaires. Les autres, j'ai pratiquement pas joué avec les autres.
C'est ça.
Ouais.
Puis justement, j'avais envie qu'on parle de l'ambiance sur le plateau.
Ouais.
C'était quoi l'ambiance, Gilmore Girls? C'était-tu une bonne vibe? C'était
comme... C'est mélangé, mais c'était définitivement ce que les gens réalisent pas, un show très, très, très difficile à tourner. Parce qu'on avait, comme tu as mentionné, on parlait très, très vite. Donc, l'implication de parler très, très vite, c'est que tu as à peu près par émission... 25 à 30 pages de plus de dialogue qu'une émission normale.
J'ai lu que vous aviez entre 80 et 90 pages par épisode.
Je ne sais pas le nombre total, mais je sais qu'on avait au moins 25 pages de plus qu'un show normal. Donc, 25 pages de plus. Normalement, tu peux tourner par jour 5, 6 pages, 7 pages. Mais on n'avait pas plus de temps pour le tourner. Fait que ce que ça faisait, c'est qu'on était tout le temps en overtime, on était tout le temps dans des journées folles. Fait que tout le monde était tout le temps brûlé.
Tout le monde est pressé.
Tout le monde est brûlé parce que c'est tout le temps des journées de 18 heures, des journées de 16 heures. Et on a déjà eu une journée, c'était une journée de 23 heures. Fait que, tu sais, les gens, c'est pas humain, tu sais.
Non.
Fait que, oui, on avait du fun par moment parce qu'on s'aimait, puis parce que, etc. Mais de dire que c'était un piece of cake, ce show-là, de tourner, c'est pas la vérité. Là. C'était beaucoup de travail. Les gens travaillaient des longues heures et étaient fatigués.
Allez, on réalise pas, hein, les gens qui travaillent pas en télé.
C'est ça,
Travaillent en télé.
Ouais, c'est ça.
C'est quoi la vie de plateau? Là.
Ouais,
les gens réalisent pas tout le travail.
C'est ça. C'est
incroyable.
Les journées sont longues. Mais écoute, moi, j'adore. Une journée de 10 heures, 12 heures, j'ai pas de problème avec ça. Ouais. C'est sûr que quand ça commence, tu tombes dans du 18, tout ça, là, c'est dur pour la concentration, en fait.
Mais c'est
toi, tu es en caméra, tu peux pas être fatigué, tu peux pas ne pas être présent complètement. Fait que c'est une espèce de... Psychologiquement...
Mais psychologiquement, te dire aussi, hey, je suis tellement brûlé, je suis en train de donner la meilleure performance
aussi,
que je pourrais donner,
aussi,
j'imagine.
Mais tu donnes ce que tu peux avec ce que t'as. Tu sais, c'est un peu tout le temps ça. Jouer, si tu peux pas offrir autre chose que où tu es dans le moment présent. Sinon, les gens font ça sonne pas vrai, ça sonne, la personne n'a pas l'air dans ses souliers. Mais bref, en fait, c'est ça, ça répond à ta question.
C'était qui tes best friends sur le plateau? Avec qui
Ben, c'est ceux avec qui je jouais.
Le plus, hein,
c'est Melissa puis Lauren, parce que les autres, j'ai pas joué. Tu sais, Kelly, je pourrais dire qu'on est devenus très amis, mais on a un petit peu joué ensemble, mais très peu. À peine. Mais les autres, j'ai pas joué avec eux du tout.
Même pas. Okay, mais tu les as croisés sur le plateau, mais...
Oui, on se croisait, on se voyait aux lectures, on se voyait dans des parties.
Mais c'était pas la relation que tu as eue quand même avec les...
Non, parce que c'est sûr que Lauren puis Melissa, ben on passait nos journées ensemble, on jouait ensemble, on apprenait nos textes ensemble, on était tout le temps ensemble. Ça crée une relation qui est différente d'avec les autres, c'est certain. Ouais.
C'est clair. Y a-t-il des épisodes, des tournages qui, toi, t'ont particulièrement marqué?
Ma mémoire. Ben, c'est sûr que les épisodes où le personnage avait plus un storyline à lui, c'est des épisodes où j'ai eu plus de fun parce que j'avais plus de viande. Donc, les épisodes où il perd son chien, l'épisode où il va à LA puis il gagne à The Price is Right.
Oh mon Dieu. C'est des sa mère aussi, je pense.
Ou l'épisode de sa mère. C'est ça, ces épisodes-là, pour moi, sont plus intéressants parce que j'avais plus à faire.
Ouais, c'était déjà plus développé un peu.
C'est ça.
C'était plus plaisant.
Ouais.
Puis je sais pas, y a-tu peut-être des anecdotes de plateau, des choses peut-être drôles ou qui nous surprendraient qui sont arrivées, que tu pourrais nous partager?
Comme je t'ai dit, moi, j'ai tellement pas une bonne mémoire, mais je me souviens que Sally Struthers qui jouait la professeure de danse Liz Troyes.
Oui.
Hey, j'ai bien mémoire, c'était...
Je
m'en viens
c'est
vieux.
Bon.
C'est pas drôle. On tournait avec... Parce que sur des shows comme ça de 24 épisodes, c'est plein de réalisateurs qui viennent. Ouais. C'est pas toujours la même personne. Et donc, c'était un nouveau réalisateur et il faisait très, très, très chaud parce que quand on commence à tourner, Gilmore, on commençait en juillet, puis juillet, août, septembre, à LA, c'est très, très chaud. Puis des fois, on était dehors. Et les acteurs sur un plateau, on a nos chaises avec nos noms à aller dessus.
Ouais.
Et Liz et Sally étaient debout depuis longtemps, il faisait chaud. Et Sally se retourne à Liz et elle lui dit « Don't they know who we were? » J'ai trouvé ça très drôle.
Oh, c'est cute.
Oh, ouais, ouais.
Oh, wow.
C'est un jeune, le réel. Je suis sûr qu'il savait qui ils étaient, mais je pense qu'il avait juste oublié de sortir les chaises.
Oh, c'est cute. J'ai la question qui tue pour toi.
Oui.
La grande question. On te l'a sûrement déjà posée. Est-ce que tu es team Jess, Dean ou Logan?
Écoute, cette question-là, pour moi, elle est absurde. Parce que je n'ai pas regardé la série, comme je t'ai dit. Fait que j'ai pas suivi toute cette histoire-là de team. Je suis bien au fait qu'elle a eu des relations avec chacun des trois, mais je sais pas le storyline des trois qui sont vraiment comme personne. De ce que je comprends, Jess, c'est comme un bad guy.
Uh-huh.
Fait que c'est ça. Puis moi, je suis ami avec Jared dans la vie. Fait que j'ai envie de dire Jared juste parce que je suis ami avec, mais pas à cause de son storyline. Je sais pas c'est quoi son... Je pense qu'il l'a trompé ou c'est quoi qu'il a fait? Il me semble qu'il a fait quelque chose de pas correct.
Il a fait bien des affaires, là.
Ah, tu vois, c'est ça. Je suis pas assez au fait du storyline pour répondre à cette question-là. Je sais pas.
Moi, je suis team Logan.
Ah ouais? Comme ça, oui. Logan, c'était le dernier. C'est Mazzucri.
Ben, je trouvais que c'était avec lui qu'elle avait la relation la plus saine.
OK. Bon, selon moi. OK. Bon, ouais. Bon, on va y aller
quand
avec
j'étais jeune,
lui.
J'aurais dit Jess. Mais là, parce avec que mon, mes le... yeux d'adulte, ouais. Je pense que c'est Logan.
Il y avait plus de bon. Mais ouais. Son père était très riche, mais lui, il n'était pas prétentieux.
Oh, un petit peu.
Ouais.
Un petit peu, mais c'est oh. Un bon gars.
OK.
Ouais, c'est un bon gars.
C'est le meilleur des trois.
Toi, tu aurais peut-être plus été au fait de dire si t'es team Christopher ou Luke, peut-être.
Ouais. 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 Christopher. Hey boy. Non. Christopher, moi j'aurais été Christopher, je pense.
Moi aussi.
Ouais.
Moi aussi.
Je pense que oui.
Ouais. Ouais.
Mais ça, il n'y a pas de team. Il n'y a pas de team par rapport à ça. Ouais.
Mais non. La série, après la sixième saison, Amy et Daniel, ils ont quitté.
Ouais.
Est-ce que la dynamique, soudainement, a changé? T'sais, ils ont quitté parce qu'il y a eu un peu de la chicane avec le network qui changeait. Ça devenait CW, puis là, ils voulaient engager plus d'auteurs. Ça n'a pas été possible. Donc là, ils ont quitté. Mais là, sur le plateau, évidemment, c'est sûr que ça change une dynamique. Là. C'est plus les mêmes personnes.
C'est... Oui, c'est ça. Ben, sur le plateau, les auteurs sont rarement là. Donc ça, ça change pas grand-chose pour
non,
nous.
Mais
c'est sûr qu'ils ont tellement une façon unique d'écrire que quand on lisait les textes, même si c'était bien, mais on voyait bien que c'était pas écrit par eux.
C'était parce pas la que, même chose.
Ben non, tu peux pas copier l'essence de quelqu'un d'autre, en fait.
C'est on fait essayait que, d'imiter le
oui,
style.
Oui, c'est ça. Mais
c'est pas la même saveur.
Ben non, forcément. Donc, il y avait un peu d'ambiguïté dans cette situation-là pour nous autres. Mais en même temps, on voulait pas que le show meure.
Ben non.
Puis je pense que s'ils étaient restés, puis s'il y avait pas eu cette chicane... On aurait peut-être fait 10, 11, 12 ans, tu comprends?
Il n'y avait
pas de fin à ce show-là.
Puis finalement, c'est-tu ce changement-là qui a fait que ça s'est terminé à la septième saison? Ça a-tu été un des facteurs?
Sûrement. Il faudrait que tu demandes au network. Mais puis je pense qu'aussi, il y a eu de la renégociation de contrat parce qu'après 7 ans, on avait le droit de renégocier. Fait que là... Le coût du show change par le fait même. Et je pense que là, à un moment donné, le network regarde combien ça va coûter et tout ça. Fait que,
ouais. Puis quand vous tournez la septième saison, je pense que vous le saviez que... Je pense que ce que j'ai lu, en tout cas, c'est que c'était 50-50.
Non, on ne savait pas du tout.
C'est ça.
Quand on est parti après la septième
saison...
Vous
n'avez même pas eu de party.
Non, hein? Rien. Non, on ne savait pas, en fait. Parce que là, les gens allaient renégocier. Puis c'est au milieu des renégociations... que le network a décidé de ne pas renouveler. Donc, non, moi, j'étais sûr que je retournais travailler en juillet. Là.
Hey, ça devait être un deuil quand même.
Vraiment.
Puis surtout, de ne pas pouvoir dire au revoir.
Oui, de ne pas pouvoir dire au revoir à l'équipe technique, aux caméramans qu'on a passé tant de temps, tout le monde sur le plateau. Ça, c'est un peu poche. Ouais.
Puis après ça, il y a eu au moins A Year in a Life.
C'était toute une équipe. Oui, pour les acteurs, mais toute l'équipe technique n'était plus là.
Non, c'est
donc,
ça.
Donc, tous les caméramans, les DP, tout ça, les grips, c'était toute une nouvelle équipe. Donc, c'est ça. Mais oui, c'était très le fun.
Reste, est-ce que c'était content? Est-ce que c'était le fun pour toi de retrouver ton personnage?
Oui,
est-ce qu'il
te
manquait?
Manquait, je dirais pas qu'il me manquait, mais c'était comme retourner dans des pantoufles très confortables. Oui. C'est très, très rare qu'on a la chance dans notre métier de revisiter un personnage qu'on a déjà joué. En fait, ça arrive jamais.
Non,
une fois que c'est terminé, c'est terminé. T'sais. Fait que c'était comme un peu hallucinant d'avoir la chance de le revisiter. Ouais.
Thank God aussi, vu que vous aviez jamais eu l'espèce de closure.
Oui,
là,
oui.
C'était comme de vous donner une deuxième chance de le faire,
oui.
En quelque sorte.
Oui. Non, c'était très bienvenu. C'était un beau moment.
Puis à la fin de la série, attention, spoiler alert, à la fin de la série, on apprend que Rory est enceinte.
Oui.
Puis il y en a beaucoup qui ont vu ça comme une porte ouverte pour que la série revienne éventuellement. Puis que là, ça tourne autour de Rory qui a un enfant. Je te l'apprends. Sur Internet, les gens, là, ils ont vu ça comme, oh mon Dieu, ils ouvrent la porte pour que la série revienne.
OK.
Si la série revenait, est-ce que tu reprendrais ton rôle?
Ah, sûrement. Oui, je veux... Ben, tu veux dire... La série reviendra jamais. Elle ne peut pas revenir sous une forme de série, là, parce que je pense qu'il n'y a personne qui serait disponible pour faire ça.
Il n'y aurait sûrement pas autant d'épisodes qu'il y avait dans
la saison. Non, 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 c'est pas possible. Mais tu sais, s'il y avait un film ou je ne sais pas quoi, deux épisodes, ou je sais pas. Oui, avec plaisir. Oui, oui.
Ouais. Là, j'ai vu qu'il y a un documentaire qui s'en vient.
Oui, mais c'est pas un documentaire que tout le monde a participé.
Ben non,
c'est Lauren n'est pas dedans, Alexis n'est pas dedans, Amy n'est pas dedans, Dan n'est pas dedans.
Mais tous les personnages principaux, sont pas là.
Non, sauf Kelly.
C'est ça.
Kelly, elle l'a fait. Ouais, moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai appelé Lauren, j'ai appelé Amy, forcément, puis j'ai dit, hey, qu'est-ce qu'on fait? Nanana. Puis ils ont dit, non, on ne le fait pas. Fait que, par respect pour Amy, c'est son show. Je n'étais pas à l'aise de faire un documentaire.
Qui n'est pas affilié à eux.
Non, c'est ça. Je trouvais que ça avait comme pas de sens.
Ah, ben non.
Fait que j'ai dit non.
Ah, c'est un peu bizarre. OK, ben ça m'explique parce que moi, quand j'ai vu l'annonce de ça, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est incroyable. T'sais, en plus, cette année, on fête les 25 ans. Je me disais, t'es malade. Puis là, je regarde le casting. Puis tu sais, oui, je suis contente d'avoir des nouvelles de ces comédiens-là puis savoir qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Mais je me disais, mais voyons, les comédiens principaux sont où?
Ils sont pas là, ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu dommage parce qu'on a essayé de faire quelque chose pour le 25e avec Amy. Puis ça a comme foiré, puis personne qui a donné suite. Je sais qu'elle a pitché des idées au studio. Fait qu'il y a comme rien qui est fait, puis c'est comme triste, je trouve.
Mais c'est triste, surtout sachant que c'est pas une série qui est oubliée.
Non, c'est une série culte, là. T'sais, c'est une série qui est vraiment très, très, très présente encore. Fait que je trouve ça plate pour les gens, les fans qui sont des millions et des millions partout dans le monde, de pas leur donner un objet de célébration, un cadeau, que ce soit nous qui s'assoyons, tout le monde. Non, je sais pas. Puis Lauren aussi trouve la même chose. On est très proches, moi, puis Lauren. Puis. On trouve ça dommage.
Mais ça veut pas dire que ça viendra pas.
T'as un peu tard, là, on est rendu au mois de septembre.
Mais pour le 25e, c'est sûr.
Pour le 25e, on a manqué le bateau.
C'est sûr.
Ouais.
Mais dans le futur, parce que clairement, il y a une demande.
Peut-être.
C'est clair que les fans veulent voir ça.
Ah, c'est clair.
C'est sûr.
C'est clair.
Mais c'est vraiment. C'est tard.
Peut-être que le documentaire va en satisfaire quelques-uns. Peut-être que.
Oui. Mais tu sais, j'ai l'impression que ça va être comme. C'est une petite sucrerie, mais on veut le sac au complet. Là.
Ouais, je comprends.
On veut tout.
Ouais.
On veut le full package, puis là, on dirait que c'est un peu... c'est agace.
Je comprends.
Ouais. Mais je comprends pourquoi vous participez pas si c'est même pas affilié à,
ouais,
à la
moi,
créatrice
moi, c'est pour
du
show. Ouais, c'est un peu bizarre.
Un peu weird. D'ailleurs, parlant de Amy, tu l'as retrouvée justement sur le projet L'Étoile.
Oui.
C'était le fun pour toi de la retrouver.
Extraordinaire.
Tu l'appelles maman.
Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de running gags avec ses amis. Et elle, je ne sais pas comment j'ai sorti ça un jour, mais mon gag était basé sur le fait qu'elle a donné naissance à ma carrière artistique aux États-Unis.
C'est tellement cute.
Fait que j'ai commencé à l'appeler maman. Et elle a commencé à m'appeler mon fils parce qu'elle dit « You're the best son I could have had because I didn't have to put you through school for you. And I didn't have to raise you and you came out all perfect. Mais c'est ça. Donc, c'est ça. On dit l'appel, maman. Mais oui, se retrouver, c'était. Pour moi, c'était une occasion extraordinaire parce que la relation, elle date de là, il y a longtemps. On se connaît vraiment artistiquement, mais surtout, c'est dans un autre contexte. Où là, il n'y avait pas la folie de la pression de tourner. Là, on avait le budget pour tourner ce qu'eux tournent, de leur façon qu'ils tournent, avec un sujet qui la passionne depuis toujours, la danse, parce que c'est une danseuse. Tourner à Paris, donc vivre en Europe pendant 7 mois dans des conditions incroyables.
Le rêve.
Des textes incroyables. Moi, j'ai toujours aimé beaucoup la danse. Donc, on s'est retrouvés, mais retrouvés et comme trouvés. Parce que je te dirais que on a fait beaucoup de panels après ça pour les Emmys et tout ça, puis on répondait aux questions des gens. Puis elle a dit, et moi aussi j'ai dit, qu'on avait un peu comme l'impression que c'était la première fois qu'on tournait ensemble. Parce qu'on avait le temps d'être ensemble, on avait le temps de discuter, on avait le temps d'essayer des choses, on a eu le temps d'aller manger au restaurant, on a eu le temps. Tu comprends?
Avant, vous n'étiez pas présent là
du tout, du tout. Alors, c'est complètement une autre expérience qui a été très gratifiante et très enrichissante et très... C'est ça. Je n'aurais pas pu être plus optimal à tous les niveaux, que ce soit artistique et humain. Donc, très, très heureux d'avoir tourné ça. est très fier du show. J'adore le show. Malheureusement, c'est un show qui a coûté énormément d'argent. Et je pense que c'était juste comme trop pour le network de refaire une saison 2. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires de gens qui ont beaucoup aimé ça. Donc, ça me fait très plaisir et je suis très fier d'être dans ce show-là. Ouais.
Ben, cet automne, quand vous allez avoir fini Gilmore Girls,
ouais,
écoutez l'étoile.
Ouais. C'est moins un gros commitment. Hein. C'est 10 épisodes.
Étoile,
c'est Oui, c'est un danseur. C'est un... Quand les danseurs de ballet sont dans une compagnie, les danseurs étoiles, c'est ceux qui ont les rôles principaux.
Exact.
C'est le top, c'est ça. Donc,
c'est ça. Puis dans la série, ils switchent leurs danseurs étoiles.
Exact.
C'est ça,
hein, de New York puis... et Paris, parce qu'ils sont en difficulté financière et ils se disent, ah, si on échange nos stars, ça va peut-être amener un nouveau public au théâtre. C'est la prémisse du show.
Je vais être franche, je ne l'ai pas écouté encore,
non, okay.
Mais je veux tellement l'écouter,
oui,
parce que j'adore
ça,
l'écriture d'Amy.
Ah ben, je serais vraiment surpris que tu sois déçu, là.
Ah, c'est sûr,
ouais,
je serais pas déçu.
Ouais.
Je me souviens même quand j'avais écouté Marvelous Mrs. Maisel,
ouais.
Au départ, je ne savais même pas que c'était les mêmes writers que Gilmore Girls. Puis je l'écoute, puis je commençais, c'était une nouvelle série. Puis là, mon chum me dit, ah, es-tu bonne la nouvelle série que tu écoutes? J'ai dit, hey, j'aime tellement ça, j'ai l'impression d'écouter Gilmore Girls.
Ah.
Puis là, je fais quelques recherches, puis j'étais comme, ah, ben, je suis pas folle.
Ah, ouais, c'est ça, c'est drôle.
Avec l'étoile, c'est sûr que ça va être le même feeling.
Ouais.
Moi, ça va être la prochaine que je vais écouter. J'ai très hâte d'écouter ça.
Tu me diras.
Vraiment.
Ouais.
Hey, c'est tout. Pour notre rencontre.
Okay, cool.
C'est déjà tout.
Okay.
On a fait le tour des questions que j'avais. Merci tellement.
Ça fait plaisir.
Je pense que les gens vont être contents d'en savoir plus sur Gilmore Girls, sur cette série-là, qu'ils sont sûrement en train d'écouter en ce moment. Et là, ça va être juste le bonus
parfait.
Là, on
est septembre, là, c'est ça, ça commence.
Oui, oui. Mais là, nous, pour les gens qui nous écoutent sur Patreon, on est en septembre. Pardon. On est en septembre, mais après ça, ceux qui nous écoutent sur YouTube, on est déjà en octobre.
Ah non, je parlais
pas
de...
On a déjà fêté les 25
ans. OK, oui. Ah, je comprends.
Oui, oui, oui.
C'est ça, OK.
Exact.
Ouais.
Ben merci. Puis surtout que ça en fait pas beaucoup, ben c'est vraiment un honneur de t'avoir reçu. Puis je te recommande vraiment d'écouter Gilmore Girls. D'écouter tous les épisodes.
Un jour, quand j'aurai 80 ans.
C'est une série incroyable.
Merci.
On se laisse là-dessus. Merci. Puis merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se retrouve bientôt. Bye bye.